Merci Maëlys, à demain.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui mardi, deuxième moment de notre semaine hors les murs dans la compagnie des auteurs. Nous poursuivons nos visites de maisons d'écrivains. Avec une semaine entamée par la visite du château Monte Cristo, éphémère maison d'Alexandre Dumas qu'il avait fait construire selon des plans somptueux, mais qu'il n'a pas pu occuper plus de 2 années, poussé dehors par ses créanciers, Claude Chop, qui connaît tout d'Alexandre Dumas, ainsi que Frédéric Lurol, la directrice de la maison, nous ont fait faire le tour du propriétaire. Demain, nous irons chez Alphonse Daudet à Draveil-Essonne et jeudi chez Jean Cocteau à Milly-la-Forêt. Mais vous pouvez également télécharger notre première série de maisons d'écrivains avec 3 émissions toujours disponibles à Vulaine-sur-Seine chez Mallarmé, Place des Vosges à Paris chez Victor Hugo, ainsi que chez Chateaubriand à la Vallée aux Loups. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler d'un Balzac itinérant dans Paris, je recevrai au cours d'une longue seconde partie l'écrivain et éditeur Éric Hazan, auteur en 2002 de L'invention de Paris au Seuil, puis de La traversée de Paris chez le même éditeur en 2016, et qui a fait paraître cette année dans sa propre maison d'édition, cette fois La Fabrique, l'ouvrage Balzac, Paris. Mais tout de suite, une visite de l'une des maisons où a vécu le grand écrivain. Elle est sise au 47 rue Raynouard, dans le 16e arrondissement de Paris. Et nous sommes avec son conservateur, Yves Gagneux. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Bonjour Yves Gagneux.
Bonjour.
Alors Balzac a déménagé 10 fois dans Paris et nous sommes justement aujourd'hui dans l'un de ses 10 domiciles officiels. C'est celui du vieux village de Passy, aujourd'hui rue Raynouard, au numéro 47. C'est dans le 16e arrondissement. À quoi ça ressemble ici? Il y a très peu de petites maisons comme celle-là, il y a surtout des grands immeubles autour.
La maison de Balzac est certainement un des derniers témoignages de ce à quoi ressemblaient les coteaux de Passy sous l'Ancien Régime et jusqu'à la fin du XIXe siècle. Il faut s'imaginer Passy vraiment comme un village avec autour des champs où on faisait de la culture maraîchère essentiellement, où il y avait quelques vaches. Et ensuite, on devait traverser toute cette campagne pour rejoindre Paris, arriver à la place de la Concorde, autrefois place royale. Et Balzac s'installe dans ce village et il va occuper une petite maison qui est à flanc de coteau. Donc la maison de Balzac est un peu déroutante sous sa forme. C'est une maison manifestement ancienne qui ne paye pas de mine quand on la voit depuis la rue Raynouard. Mais en fait, ce que l'on voit depuis la rue Raynouard, c'est juste la partie supérieure. Et on la voit en baissant le nez, en réalité. C'est une maison qui comporte 3 niveaux et qui était l'ancienne folie d'un hôtel particulier du XVIIIe siècle. Alors, qu'est-ce que c'est que la folie d'un hôtel particulier du XVIIIe siècle? Eh bien, sous l'Ancien Régime, Paris est une ville absolument invivable en été parce qu'il n'y a pas d'égout. Donc, il y a une puanteur monstrueuse et qu'il fait un peu chaud, ce qui fait que tous les gens qui ont de la fortune, et notamment les aristocrates, quittent Paris dès les beaux jours pour aller se réfugier dans leur résidence, dans le Limousin, en Auvergne ou en Picardie. Et vous avez des riches financiers qui ont tout à fait les moyens de quitter Paris, mais qui n'ont pas forcément de propriété de famille puisqu'ils sont de fortune récente. Ceux-là vont se faire construire des hôtels particuliers pas trop loin de Paris, ça leur évite le désagrément du voyage, et dans des endroits qui sont complètement verdoyants. Passy était un de ces lieux, donc à Passy se trouvaient sur les coteaux quelques hôtels particuliers extrêmement riches qui voisinaient avec des terrasses sur lesquelles on plantait des pêchers, des vignes et de la culture maraîchère.
Alors juste à côté d'ici, il y a justement l'hôtel de Lamballe, qui est un très bel hôtel particulier. Aujourd'hui, c'est l'ambassade de Turquie. Il était déjà là, évidemment, du temps de Balzac.
Il était là sans lettres, puisque ce que l'on voit aujourd'hui, c'est la reconstruction complète de l'hôtel de Lamballe. Cet hôtel magnifique du XVIIIe siècle, qui avait appartenu à la princesse de Lamballe, dont on sait qu'elle a connu un destin absolument monstrueux pendant la Révolution. Ça a été une des scènes d'atrocité, les pires qui soient. On l'a véritablement lynchée, on lui a coupé la tête sur une borne, on a mis la tête sur une pique pour aller espérer la présenter à Marie-Antoinette, dont elle était la dame de compagnie. Cet hôtel ensuite a été revendu et racheté au début du XXe siècle par une riche américaine qui a voulu faire des travaux. Et là, l'entrepreneur lui a dit, Madame, tout ceci me paraît bien vétuste, il faudrait mieux reconstruire. Donc on a reconstruit cet hôtel dans l'idée que l'on se faisait à l'époque du XVIIIe siècle, ce qui en fait en réalité un lieu extrêmement intéressant, puisque c'est une des très rares constructions néo-XVIIIe qu'on ait du XXe siècle.
Alors, donc, c'était un village, ici, quand Balzac s'y installe, le village de Passy, qui ne sera rattaché à Paris qu'en 1860. Or, Balzac, il va vivre ici de 1840 à 1847.
Oui, Balzac va habiter 7 années dans cette maison. Alors, 7 années, ça peut paraître relativement peu, relativement réduit. En réalité, il faut rapporter cette durée à la période d'écriture de Balzac, qui a commencé véritablement son œuvre en 1830. Avant, il y a quelques écrits, mais qui ne sont pas signés Balzac, qui ne sont pas revendiqués et qui n'appartiennent pas à la Comédie humaine. Et en 1848, épuisé, il voyage et il n'écrit pratiquement plus. Donc, pendant 18 années, il va travailler et 7 années vont se passer à Passy. Cette année pendant lesquelles il va concevoir, mettre au point véritablement le concept de comédie humaine. La comédie humaine qui est ce projet de classification des mœurs. Donc Balzac ne veut pas être un romancier, il ne veut pas faire des récits, il veut écrire l'histoire des mœurs, expliquer ce que c'est que l'homme en société. Et c'est ce projet considérable qui va prendre la forme d'un ensemble de plus d'une centaine de romans, ensemble d'ailleurs inachevés, que Balzac va mettre au point. Du coup, il va écrire un certain nombre d'ouvrages absolument exceptionnel, comme le cousin Ponce, la cousine Bête, la Rabouilleuse, les paysans, mais il va surtout réécrire l'ensemble de ce qui avait déjà été rédigé avant pour le fondre dans ce véritable projet.
Il se met en retrait de Paris pour ce projet-là, parce qu'il aurait très bien pu faire ça aussi dans la capitale, il aurait été peut-être même plus proche finalement du cœur battant de ces histoires.
Alors, l'avantage d'être à Passy, c'est que d'abord que Passy, c'est très peu cher. Passy, au XIXe siècle, c'est, il faut le dire, relativement minable d'habiter là. Et puis surtout, ça présente d'autres avantages. C'est qu'à Passy, Balzac jouit d'une tranquillité d'autant plus grande que, contrairement à ce que l'on aperçoit aujourd'hui, on voit le jardin, on voit la maison depuis la rue. Du temps de Balzac, il y avait ce grand hôtel particulier qui a été rasé dans les années 1930 qui le dissimulait complètement. Donc il avait la paix. D'autre part, à Passy, il n'y avait pas le service de garde nationale. La garde nationale, c'était un service obligatoire et ceux qui ne le faisaient pas partaient au trou, partaient en prison. Et Balzac a fait de la prison parce que les artistes au XIXe siècle refusent évidemment de faire le service de la garde nationale. Alors la première fois, c'est tout à fait charmant, on reçoit ses amis, on est très fier d'être mis en prison parce qu'on n'a pas voulu faire son service, mais à la longue, ça devient très vite lassant. Donc Balzac se trouve beaucoup plus tranquille à Passy.
Donc il est un peu caché, au fond, Yves Gagneux. Il prend même un pseudonyme, je crois, pour signer le bail de cette maison.
Oui, Balzac, en réalité, quand il se met à Passy, cherche un endroit où on ne puisse pas le trouver. Il est couvert de dettes, véritablement, et à cette époque, il existe une prison pour dettes. Donc si Balzac avait été repéré par ses créanciers, on aurait pu procéder à ce que l'on appelait à l'époque une saisie de corps, c'est-à-dire prendre notre Balzac, le mettre en prison à Clichy, la prison pour dettes, et l'y laisser là, un temps indéterminé. Donc Balzac, évidemment, c'est une perspective qui ne l'enchante guère, donc il va vouloir se dissimuler complètement, et dans cette maison, il va prendre en effet le pseudonyme de Monsieur de Brognol. Alors, deux, parce que Balzac tient la particule, et Brognol, parce que sa gouvernante, et qui est sans doute beaucoup plus que sa gouvernante en réalité, il a vécu avec elle de façon maritale pendant quelques années, s'appelait Madame Brognol. Donc, voici notre Balzac caché dans ce lieu, et on sait parfaitement que pratiquement personne ne lui a rendu visite.
Donc, il écrit à Madame Anska, il lui dit comment correspondre avec lui, avec la nouvelle adresse, c'est la rue Basse, hein, c'est pas encore la rue Renoir, et en même temps, donc, il vit avec sa gouvernante, c'est ça?
Oui, alors ça, évidemment, il se garde bien de parler à Madame Anska de sa gouvernante, et quand il lui en parle, c'est pour lui expliquer qu'elle est revêche, qu'elle est bête, qu'elle est désagréable et qu'elle est laide. Le seul problème pour Balzac, c'est qu'un jour, Madame Anska va venir sur les lieux et va se rendre compte que la relation de Balzac et de sa gouvernante n'est peut-être pas exactement ce qu'on lui a écrit. Donc Balzac vraiment est tranquille, et du coup, il va travailler. Et ça, c'est une chose extrêmement importante. Nous sommes dans le cabinet de travail de Balzac, et c'est dans cette pièce que Balzac va travailler 16 à 18 18 heures par jour. C'est une chose dont on ne se rend pas véritablement compte. Un travail essentiellement nocturne, puisque vous voyez cette toute petite table que Balzac a promenée de domicile en domicile, et il en parle dans sa correspondance. Il a parlé à Mme Manska, il dit que cette petite table, il l'a usée de son bras, de son coude. On y voit aussi des marques qui sont probablement des marques qu'il a faites avec sa plume pour la redresser, pour travailler dans le fil du temps. Donc Balzac, à minuit, se fait réveiller, se met à cette table. Il a un chandelier avec trois bougies, son papier, son encrier, sa cafetière et une tasse. Et il va travailler de minuit à 8 heures du matin pour faire du manuscrit. À 8 heures du matin, il s'arrête, il prend un brin de toilette, il s'habille, il déjeune. Et puis arrive l'imprimeur qui va emporter tout ce que Balzac a écrit pendant la nuit et qui va laisser à Balzac tout ce qui a été composé la veille au soir. Et Balzac se remet à sa table de travail à 9h du matin, et cette fois-ci, il va corriger les épreuves que l'imprimeur lui a envoyées, et c'est un travail qui va le mener jusqu'à 6h ou 7h ou 8h de l'après-midi. Là, il s'arrête à nouveau, il dîne, une petite promenade, un peu de correspondance, à 8h au lit, et à minuit, on recommence. Voilà. Donc c'est un rythme absolument incroyable qu'il peut tenir pendant plusieurs semaines, et de temps en temps, Balzac va quitter les lieux, va voyager, va respirer un peu, et va surtout absorber tout ce qu'il va observer autour de lui, qu'il va ensuite réintégrer dans cette œuvre fantastique qu'est la Comédie humaine.
Donc vous venez de le dire, Yves Gagnon, on est dans son cabinet de travail, on entend les oiseaux, l'atmosphère est très tranquille. Comment vous pourriez définir un petit peu justement l'atmosphère de cet endroit, de ce lieu ?
L'atmosphère est assez particulière. En réalité, aujourd'hui, c'est un endroit un peu magique, puisque c'est vraiment une pièce d'évocation au sein du musée où on peut vraiment se représenter l'écrivain en train de travailler. Et surtout, on peut, par contraste, d'une certaine manière, juger de ce qu'est véritablement la comédie humaine. Si on se représente l'écrivain ici, en train de travailler la nuit, c'est le noir absolu, on entend à peine le chant des merles à 4 ou 5 heures du matin et pas davantage. Et Balzac va faire ses écrits qui semblent être d'une précision métronomique. On a vraiment l'impression qu'il décrit les choses, qu'il est devant les monuments, devant les personnes, devant les gens pour les décrire. Mais pas du tout, Balzac va faire la description extrêmement précise d'un monde imaginaire. On est vraiment au cœur du processus romanesque.
Alors, il y a derrière vous une immense cheminée, qui est une cheminée que je crois vous avez acquise il y a peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous en parler, peut-être d'abord nous la décrire, parce qu'elle est assez extraordinaire.
Oui, c'est une très grande cheminée en bois, avec énormément de sculptures par-dessus. On voit des têtes de faune, on voit des têtes d'anges, on voit des allégories, on voit des fleurs, des motifs décoratifs. Et c'est un ensemble très très étonnant qui n'a pas vraiment de cohérence stylistique. Et quand on la présente à des spécialistes, en général, ils sont bien embarrassés. Et ils disent, mais je ne connais rien de semblable pour le 19e siècle, ça n'est pas du 17e, ces éléments-là sont manifestement du début 18e, mais ceux-là non, ceux-là sont plutôt fin 18e, mais ça c'est tout à fait 19e. Qu'est-ce que c'est que cet ensemble ? C'est très très étonnant. C'est très grand, c'est très imposant. C'est une cheminée qui fait plus de 1,30 m de haut, qui fait pratiquement 2 mètres de large. C'est assez monumental. Donc Balzac achète cette cheminée et il est très fier de cette cheminée. Et donc Balzac explique à Madame Manska, j'ai un morceau de sculpture du XVIIe siècle. Tu vas avoir une salle à manger, même les Rothschild n'ont pas l'appareil. Et il en parle à tous ses amis. Théophile Gautier parle de la cheminée. Il dit, voilà, Balzac nous a montré une cheminée, mais c'est une chose incroyable. Voilà. Il en parle de façon dithyrambique. Et puis, cette cheminée se perd. Et elle est ressortie, donc nous l'avons identifiée, nous l'avons acquise, et à ce moment-là, nous avons commencé à l'étudier. Donc nous sommes sûrs que c'est la cheminée de Balzac, mais nous sommes certainement le seul musée en France à nous enorgueillir d'avoir acquis un faux. Mm-hmm. Parce que cette cheminée, si elle a vraiment appartenu à Balzac, n'est absolument pas une cheminée du 17e, mais ça n'est pas davantage une cheminée du 18e ou du 19e siècle. C'est en fait un assemblage. Quand on la regarde de très près, on voit des fragments qui ont dû être prélevés sur des stalles de chœur, sur des buffets d'orgue de différentes époques et qui ont été ensuite remontés par un sculpteur tout à fait doué qui a fait un ensemble d'une cohérence apparente réelle, mais quand on regarde le détail, on s'aperçoit que certains motifs, d'un seul coup, changent brutalement. Il y a une sorte de sécheresse, d'automatisme, parce que le sculpteur du 19e siècle n'a pas tout compris. Donc beaucoup de questions se posent encore autour de cet objet, mais ce qui est certain, c'est qu'il appartenait à Balzac, que Balzac en était très fier, et qu'il s'est fait complètement rouler par le vendeur. Mais en même temps, ce faux, eh bien, il l'a introduit dans son roman Le Cousin Ponce. Donc on voit comment Balzac est capable de sublimer la réalité pour vraiment vraiment donné dans l'imagination, donné dans le romanesque. Là aussi, c'est le processus romanesque et c'est la raison pour laquelle cette cheminée a tout à fait sa place dans le cabinet de travail.
Et qu'est-ce que ça nous dit, Yves Gagneux, de l'œil justement de Balzac et peut-être de son amour à la fois pour cet objet extrêmement baroque et puis même s'il ne voit pas que c'est une composition, que c'est quelque chose de composite, sans doute le ressent-il. Est-ce que ça nous dit quelque chose de sa personnalité ?
Oh, ça nous dit beaucoup de choses sur sa personnalité. D'abord, quand on regarde les quelques éléments de mobilier qui subsistent de Balzac, on se rend compte que tout ceci est d'un éclectisme absolu, ce qui est encore relativement rare dans les années 1840. Et surtout, quand on voit une cheminée pareille, au fond, c'est très touchant parce qu'on voit, la naïveté de l'homme. C'est-à-dire que Balzac s'imagine comme le personnage qu'il a inventé, le cousin Ponce. Le cousin Ponce est un bric-à-bracomane, dit Balzac, c'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment se spécialiser, qui a un œil magnifique, et le cousin Ponce est capable, dans un bric-à-brac innommable, de dénicher la perle rare. Il va identifier le petit éventail peint par Watteau pour la Madame de Pompadour qu'il va acheter pour une misère. Ça, c'est le rêve de Balzac. Et Balzac, en achetant cette cheminée, va s'imaginer être à la place du cousin Ponce. Alors, il va payer ça beaucoup plus cher que l'éventail de la Pompadour, et ça n'est pas l'éventail de la Pompadour, c'est un faux. Tant pis pour Balzac, mais voilà. Mais ça nous donne un côté très touchant parce qu'au fond, on voit la capacité de l'homme à s'enthousiasmer pour les choses et puis à échafauder ensuite tout un roman, à imaginer les choses. On est vraiment devant le romancier.
Alors Yves Gagneux, il y a 5 pièces dans cette maison, c'est ça ? Celle-là, c'est la plus emblématique, peut-être la plus belle, mais il y a aussi d'autres lieux.
Oui, la maison de Balzac est un petit endroit. Balzac occupait un appartement de 5 pièces, ce qui était relativement minable. Les pièces sont petites, sont réduites. Et ces pièces, maintenant, nous servent à présenter peut-être moins la vie de l'écrivain que son œuvre. C'est en effet son œuvre qui a valeur universelle, son œuvre qui touche les étrangers, qui touche les Français, qui nous touche nous, parce que l'œuvre de Balzac explique le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est une œuvre qui n'a pas vieilli d'une seconde, parce que Balzac analyse l'homme dans ses rapports sociaux, dans son essence. Et ça n'a pas changé. Donc pour les Chinois, Balzac est un Chinois d'aujourd'hui. Pour les Brésiliens, Balzac est brésilien, parce que Balzac parle de la Chine comme il parle du Brésil, comme il parlait de la France au 19e siècle et comme il parle de la France du 21e siècle à ce qu'il lit d'aujourd'hui.
Et c'est aussi un petit paradis pour vous ?
Bah oui, c'est un endroit magnifique. Avoir comme ça cette maison ancienne, avoir le chant des oiseaux quand on est dans son bureau, bénéficier d'un jardin et ce, en plein cœur de Paris, c'est effectivement un vrai bonheur. Donc, il faut venir voir cette maison si on ne la connaît pas.
Alors justement, comment fait-on pour venir ? À quelle heure ? Et est-ce que ça coûte quelque chose ?
Alors non, les visiteurs ont beaucoup de chance puisque le musée est d'accès gratuit, donc on peut accéder sans payer dans ce musée et il est ouvert tous les jours de la semaine, sauf le lundi, de 10h à 18h.
Merci beaucoup Yves Gagneux.
Je vous en prie.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Ces observations, incompréhensibles au-delà de Paris, seront sans doute saisies par ces hommes d'études et de pensée et de poésie, et de plaisir, qui savent récolter, en flânant dans Paris, la masse de jouissances flottantes à toute heure entre ses murailles, ses greniers, espèces de têtes pleines de science et de génie, ses premiers étages, estomacs heureux, ses boutiques, véritables pieds, de là partent tous les trotteurs, tous les affairés. Et quelle vie toujours active a le monstre! À peine le dernier frétillement des dernières voitures de bal cesse-t-il au cœur que déjà ses bras se remuent aux barrières et il se secoue lentement. Toutes les portes bâillent, tournent sur leurs gonds comme les membranes d'un grand homard, invisiblement manœuvrées par 30 000 hommes ou femmes, dont chacune ou chacun vit dans 6 pieds carrés, y possède une cuisine, un atelier, un lit, des enfants, un jardin, n'y voit pas clair et doit tout voir. Insensiblement, les articulations craquent, le mouvement se communique, la rue parle. À midi, tout est vivant, les cheminées fument, le monstre mange, puis il rugit, puis ses 1000 pattes s'agitent. Beau spectacle. Mais, ô Paris, qui n'a pas admiré tes sombres paysages, tes échappées de lumière, tes cul-de-sac profonds et silencieux, qui n'a pas entendu tes murmures entre minuit et 2 heures du matin, ne connais encore rien de ta vraie poésie, ni de tes bizarres et larges contrastes.
« Un extrait de Ferragus, roman de Balzac de 1833, lui ici, par Jean Levray. Bonjour Éric Hazan.
Bonjour.
On va parler avec vous des lieux où Balzac a vécu dans Paris, mais il ne s'agit pas seulement d'évoquer les intérieurs, les appartements et les maisons de Balzac, parce que Balzac c'était aussi, et on a tendance à l'oublier, un arpenteur de la ville, un marcheur.
Oui, il marchait énormément. Il marchait avec ses grosses bottes, ses grosses chaussettes, parce que il y avait la boue parisienne qui s'accommodait pas trop bien des bas de soie blanc. Donc il marchait accoutré comme le plouc qui, au fond, n'avait jamais cessé d'être. Et il allait d'imprimerie en éditeur, de marchand de café en marchand de café, d'ami en maîtresse. Il arpentait Paris. Il dit à un moment donné, flâner, c'est vivre. En fait, je crois qu'il n'a jamais eu le temps de flâner. S'il avait flâné, il n'aurait pas écrit 12 volumes de la Pléiade. Non, en réalité, dans ses traversées de Paris en tous sens, de temps en temps, tac, il s'arrêtait devant une porte, devant un lampadaire, devant un réverbère. Et là, il le notait, il avait une mémoire photographique.
Parce qu'on l'imagine comme un homme pressé, allant chercher, vous le disiez, son café un peu à droite à gauche dans Paris. Il savait que le Bourbon, c'était rue de la Chaussée-d'Antin, le Martinique, rue des Haudriettes, le Moka, rue des Universités. Vous le disiez déjà d'ailleurs dans l'Invention de Paris, Éric Hazan. Donc c'est un homme pressé qui va toujours quelque part, qui est toujours affairé, et puis il doit en effet rentrer chez lui pour écrire. Et en même temps, il arrive à saisir tous ces détails de Paris.
C'est ça. Il décrit pas les quartiers. Quand il parle aussi bien du Faubourg Saint-Germain que du Quartier Latin, il va pas décrire l'architecture. Il va pas en fixer les limites. C'est pas son problème.
C'est pas un géographe alors.
Non. Enfin, oui et non. Je dirais quand même oui, mais ce qui l'intéresse, ce par quoi il va caractériser un quartier, c'est par un endroit. Par exemple, je parlais du Quartier Latin. Eh bien, il va prendre décrire longuement la maison misérable où habite Gobseck, l'usurier de la Comédie humaine, le grand usurier très impressionnant de la Comédie humaine. Il habite rue des Grès. La rue des Grès, c'était une petite rue, une grande rue du Quartier Latin, avant les rues des écoles, avant le boulevard Saint-Germain, bien sûr, qui avait à peu près le trajet actuel de la rue Cujas. Et cette rue des Grès, il y a plusieurs personnes de la Comédie humaine qui y habitent, et finalement, la maison de Gobseck, elle sert de façon presque, je dirais, métonymique, à décrire la misère, la saleté, la tristesse du Quartier Latin.
Et ça, c'est peut-être ça aussi, justement, la littérature, qui consiste à prendre un exemple concret d'une idée générale, d'une idée abstraite. Et ça, Balzac le fait très bien avec son art de la métonymie. Donc, il arrive à mettre Paris mettre l'esprit de Paris dans une seule de ses maisons, un seul quartier qui se trouve enclos dans une maison, une personnalité.
C'est ça. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est commun dans la littérature? Est-ce que, au fond, beaucoup de romanciers du 19e n'auraient pas commencé par décrire l'architecture générale du quartier, ses limites, sa population prise comme un groupe humain dans son ensemble, alors que là encore, Balzac ne décrit jamais de groupe humain, il décrit des personnes.
Oui. Alors, il y a un qualificatif, un adjectif que vous utilisez pour décrire le Paris de Balzac, Éric Hazan, c'est l'adjectif moderne. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup d'occurrences du mot moderne chez Balzac, mais pour vous, c'est une description du Paris moderne.
Gautier l'a dit. Balzac, c'est vrai, il utilise rarement le mot. Beaucoup de gens considèrent que le début du roman moderne, c'est Flaubert. Je pense que le début du roman moderne, c'est Balzac. Parce que plus tard, un peu plus tard, Baudelaire va vraiment définir la modernité. Il va dire, voyez comme nous sommes beaux et poétiques dans nos redingotes noires et nos souliers vernis. Mais ça, Balzac, il le dit exactement. Le dit exactement. D'ailleurs, bon, c'est pas tout à fait un argument pour ce que je pense que Balzac est le... Mais Baudelaire, qui est le meilleur lecteur de Balzac, incomparable lecteur de Balzac, il le dit que finalement il a inventé le roman. Il dit d'ailleurs une chose qui est très juste et très frappante. Il dit à un moment donné, je cite de mémoire, j'ai toujours été étonné que Balzac soit glorifié comme un observateur. Il m'a toujours paru, dit Baudelaire, que c'était avant tout un visionnaire et un visionnaire passionné. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Balzac n'est pas du tout un réaliste.
Balzac, c'est quelqu'un qui fait la synthèse de ce qu'est Paris et de ce que sont les Parisiens. Il arrive même à comprendre d'où ils viennent et où ils vont aller.
Balzac, il est plus proche de Scheherazade que de Zola, arpentant la goutte d'or avec un carnet et un crayon pour prendre des notes.
Mmh. Alors on reviendra peut-être sur ce point parce que c'est important justement l'aspect documentaire ou pas d'ailleurs de Balzac sur Paris. On peut peut-être parler un petit peu de son Paris à lui et dire que d'abord c'est la ville des années 1830. À quoi elle ressemble cette ville qui va voir Balzac finalement l'arpenter le plus?
Ça dépend. Il y a des zones de Paris qui ont énormément changé. Je pensais à ce qui était à l'époque le 12e arrondissement, le dernier des 12 arrondissements de Paris, qui recouvre à peu près le territoire de la montagne Sainte-Geneviève, avec d'un côté le quartier latin qui descend vers la Seine et de l'autre côté le faubourg Saint-Marceau qui descend vers la barrière d'Italie. Eh bien, là, on peut dire que ce que décrit Balzac n'existe plus du tout. Ça a complètement changé. Le quartier latin, on l'a dit tout à l'heure, était un quartier misérable. Mmh. Il est resté assez longtemps d'ailleurs, parce que, par exemple, Carco, dans De Montmartre au quartier latin, il décrit, avant la guerre de 14, un quartier latin sale, pauvre et misérable. Mmh. Mais dans la comédie humaine, les jeunes gens, que ce soit Lucien de Rubempré ou que ce soit Raphaël de La Peau de Chagrin, les jeunes gens qui habitent le quartier latin, ils n'ont pas un rond.
Oui.
Ce sont vraiment des, ils vont manger chez Flicoteau, qui est une gargote place de la Sorbonne. Ils habitent dans des mansardes, ils habitent dans des hôtels. Et de l'autre côté, côté faubourg Saint-Marceau, c'est encore pire. Là, c'est carrément les poules. Le colonel Chabert, il vit dans les poubelles. Enfin, pas les poubelles, ça n'existait pas. Poubelle n'était pas encore née.
Non.
Le préfet poubelle. Non, mais dans les ordures, les poules et les chèvres.
Donc ça signifie que le Paris de Balzac, il a presque totalement disparu, à part peut-être la maison qu'on a été visiter au début de cette émission, à côté d'ici, dans le village de Passy. D'ailleurs, on vous avait proposé de faire une promenade dans Paris, et puis
on
vous nous avez dit, mais en fait, c'est pas possible.
Non, on peut pas. Le Paris de Balzac, où il a été détruit, par exemple, le magnifique quartier qu'était la chaussée d'Antin, c'était un quartier formidable, c'était le quartier des nouveaux riches. C'était un quartier construit sous ses yeux. Des hôtels, c'est là qu'habitait par exemple le baron de Nucingen avec sa femme Delphine qui était une des filles du père Goriot et la maîtresse de Rastignac. Son jardin de cet hôtel de Nucingen était mitoyen de l'hôtel de Saint-Réal où se passe ce drame de la fille aux yeux d'or. Donc cette rue Saint-Lazare était une rue extrêmement chic. Alors qu'aujourd'hui, bon. Donc il y a des quartiers qui ont été détruits. Il y a d'autres qui n'ont pas été détruits. Par exemple, le Faubourg Saint-Germain n'a pas été détruit. Les grands hôtels du 17-18e siècle du Faubourg Saint-Germain sont encore intacts. Seulement, ils sont dénaturés. Au lieu que ce soit habité par Antonin de Maufrigneuse ou la Duchesse de Langeais ou Béatrix de Rochefide, ce sont des ministères. C'est habité par des fonctionnaires, c'est pas pareil.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons du Paris de Balzac avec vous, Éric Hazan. Votre livre Balzac Paris commence précisément par une évocation des différents endroits où a vécu ce grand migrateur, car c'est en effet un migrateur. Il a habité dans beaucoup d'appartements et de maisons dans Paris. La première, c'est avec ses parents, 40 rue du Temple, dans le Marais. C'est d'ailleurs dans le Marais qu'il va vraiment commencer sa découverte de Paris. Ce sera son premier quartier.
Oui, quand il était encore gamin. Il était à ce moment-là collégien à Vendôme, en pension, toujours en pension. Et quand son père est nommé à Paris, en 1814, bah, il suit sa famille, hein, comme un gentil garçon qu'il était. Et jusque vers 20 ans, il va avoir divers domiciles dans le Marais. Il va tourner dans le Marais avec ses parents.
qui après n'auront plus assez d'argent pour vivre, une fois que son père sera à la retraite, pour vivre dans Paris.
Ils partent en banlieue, à Villeparisis.
Et là, Balzac décide, lui, de retourner à Paris dès qu'il le pourra, quitte à habiter dans des conditions très précaires.
C'est ça, il va habiter une mansarde, rue Lesdiguières, qui est une petite rue qui est entre la rue Saint-Antoine et la rue de la Cerisaie.
Donc vers Bastille.
Vers Bastille, pas loin de Bastille. Et d'ailleurs, là où était sa maison, ça a été emporté par le percement du boulevard Henri IV. Et de là, il va traverser la Seine, il va habiter rue de Tournon. Et puis en fait, de fil en aiguille, il va aller de plus en plus vers l'ouest parisien. Mmh. Il va suivre d'ailleurs en cela une grande partie de la population parisienne qui se déplace d'est en ouest dès le XVIIIe siècle et surtout au XIXe. C'est-à-dire qu'il va habiter à Chaillot. Et puis ensuite, il va habiter carrément hors de Paris, au Jardy, où il prendra le train. Il dira, c'est formidable, en 8 minutes, je suis dans le centre de Paris.
J'ai jamais été aussi près du centre de Paris, écrit-il. C'est vraiment la préfiguration du rapport à la ville que aujourd'hui on a, en tous les cas, en Île-de-France.
Complètement.
Alors qu'il n'y a pas de personnage qui prenne le train dans la comédie humaine.
Non seulement aucun personnage ne prend le train, ni les transports en commun d'ailleurs, mais on ne parle pas dans la comédie humaine, il n'est même pas question des gares, qui sont quand même, sous la monarchie de Juillet, dans les années 30-40, le grand bouleversement à l'intérieur de Paris.
Qu'est-ce qui finalement le fait déménager autant et qu'est-ce qui explique sa migration que vous décrivez vers toujours l'ouest de Paris?
Ce qui le fait déménager, c'est très clair, la pression des créanciers. D'ailleurs, il déménage, comme on disait ou comme on ne dit plus, à la cloche de bois. Il déménage en catastrophe pour fuir ses créanciers. Balzac a des dettes épouvantables depuis la faillite de son imprimerie de la rue des Marais Saint-Germain, de la rue Visconti actuelle. Et jamais il n'est parvenu à combler ce trou financier. Et même il l'a aggravé parce que d'abord il était très dépensier, aussi bien en vêtements qu'en nourriture, qu'en travaux dans les appartements qu'il a, dans les logements qu'il a successifs. Il faisait construire, il faisait des travaux absolument ruineux.
Il faisait décorer et puis il achetait aussi des meubles.
Oui, c'est ça.
Pour impressionner Madame Anska, on le verra peut-être.
Et chaque fois qu'il avait des idées de placer un peu d'argent pour éponger les dettes, et ben à chaque fois c'était un désastre.
Mais pourquoi
vraiment,
vers l'ouest alors?
Alors pourquoi vers l'ouest? Je pense que c'était pour se planquer, il fallait fuir le centre de Paris. Et pour fuir le centre de Paris, finalement, sans aller dans des quartiers pour lesquels il n'avait pas une vraie prédilection, c'est-à-dire les vrais quartiers populaires, par exemple le Faubourg Saint-Antoine, il aurait pu aller habiter vers la banlieue est, vers la place du Trône. Non. Son côté, au fond, petit bourgeois, le poussait à aller vers des endroits plus... Alors, qui sont devenus... Il ne faut pas se tromper, hein, Passy, à son époque, là où est la maison que vous avez visitée au début de l'émission, Passy n'était pas du tout une zone résidentielle. C'était presque un désert. Il y avait 5-6 000 habitants à tout casser. C'était un village hors Paris et dont la vocation était beaucoup industrielle. Il y avait les grandes raffineries de betteraves, les usines par lesquelles la betterave était transformée en sucre, qui étaient sur le port de Passy, le long de la Seine.
Donc il vit ça plutôt comme un déclassement, comme une mise à l'écart, comme une cachette.
Une mise à l'écart. Là, on n'ira pas me chercher.
Il est dans Paris, certaines rues déshonorées autant que peut l'être un homme coupable d'infamie. Puis il existe des rues nobles, puis des rues simplement honnêtes, puis de jeunes rues, sur la moralité desquelles le public ne s'est pas encore formé d'opinion. Puis des rues assassines, des rues plus vieilles que de vieilles douairières ne sont vieilles, des rues estimables, des rues toujours propres, des rues toujours sales, des rues ouvrières, travailleuses, mercantiles. Enfin, les rues de Paris ont des qualités humaines et nous impriment par leur physionomie certaines idées contre lesquelles nous sommes sans défense. Il y a des rues de mauvaise compagnie où vous ne voudriez pas demeurer, et des rues où vous placeriez volontiers votre séjour. Quelques rues, ainsi que la rue Montmartre, ont une belle tête et finissent en queue de poisson. La rue de la Paix est une large rue, une grande rue, mais elle ne réveille aucune des pensées gracieusement nobles qui surprennent une âme impressible au milieu de la rue Royale. et elle manque certainement de la majesté qui règne dans la place Vendôme. Si vous vous promenez dans les rues de l'île Saint-Louis, ne demandez raison de la tristesse nerveuse qui s'empare de vous qu'à la solitude, à l'air morne des maisons et des grands hôtels déserts. Cette île, le cadavre des fermiers généraux, est comme la Venise de Paris. La place de la Bourse est babillarde, active, prostituée. Elle n'est belle que par un clair de lune à 2 heures du matin. Le jour, c'est un abrégé de Paris. Pendant la nuit, c'est comme une rêverie de la Grèce. La rue traversière Saint-Honoré n'est-elle pas une rue infâme? Il y a là de méchantes petites maisons à deux croisées où, d'étage en étage, se trouvent des vices, des crimes, de la misère. Les rues étroites exposées au nord, où le soleil ne vient que 3 ou 4 fois dans l'année, sont des rues assassines qui tuent impunément. La justice d'aujourd'hui ne s'en mêle pas. Mais autrefois, le Parlement eût peut-être mandé le lieutenant de police pour le vitupérer à ses causes et aurait au moins rendu quelque arrêt contre la rue, comme jadis il emporta contre les perruques du chapitre de Beauvais.
Take a little walk to the edge of town. Now spread your wings and fly.
La compagnie des auteurs sur France Culture, je vous vois sourire, Éric Hazan, en écoutant ce nouvel extrait de Ferragus, toujours lu par Jean Levray.
Magnifiquement lu.
Oui, très bien lu, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous retient finalement dans cet extrait-là?
Le côté de considérer les rues comme des personnes. Mmh. Ça, c'est vraiment tout à fait Balzac. C'est vraiment... Et il n'arrête pas de caractériser les lieux par des traits qui ne sont pas physiques, qui sont plus moraux.
Ouais.
Ça, c'est magnifique.
De toute façon, c'est à la fin les gens qui l'intéressent davantage. Par exemple, est-ce qu'il s'attarde beaucoup sur l'architecture?
Non, sur des détails, mais sur l'architecture en général. Je dirais que, par exemple, pas un grand hôtel parisien n'est véritablement décrit. Mmh. Entre cours, jardins, les avant-corps, ça n'est jamais décrit. On dit qu'il y a des longues descriptions dans Balzac, c'est vrai. Elles servent à ce qui permet de caractériser un personnage. On va décrire le vêtement d'une femme pendant 3 pages. Mais ça n'est pas une description gratuite, c'est quelque chose qui la raconte comme si elle en racontait sa vie depuis sa naissance jusqu'au moment où on la prend en route.
Mmh. Donc on l'a dit, l'époque du 19e, durant laquelle Balzac vit, c'est une époque de grande transformation pour Paris. Il y a un ancien Paris et un nouveau Paris, et lui distingue bien ces deux strates, y compris dans ses romans, Éric Hazan.
Ah oui, il le dit, il parle d'ancien Paris et nouveau Paris. C'est sur la rive droite. Hein. À gauche, sur la rive gauche, il n'y a pas cette distinction, mais sur la rive droite... L'ancien Paris, c'est ce qui est au sud, enfin du côté Seine, des grands boulevards. Les grands boulevards qui, à l'époque, il faut imaginer que c'est une bande ininterrompue de la Madeleine à la Bastille. Il n'y a pas les grands trous qu'il y a aujourd'hui, qui sont aussi bien la place de l'Opéra, le carrefour Richelieu-Drouot, la place de la République. Ça fait que cette idée que c'est une grande ceinture... se perd. C'est pas facile à suivre. Alors qu'autrefois, du temps de Balzac, cette ceinture continue était véritablement une frontière très marquée.
Donc ce qui est à l'intérieur, c'est le vieux Paris.
Ouais.
Et ensuite,
au-delà, c'est le Paris qui se construit sous ses yeux.
Mais il y a peut-être différents nouveaux Paris. Et lui s'intéresse précisément plutôt à ce nouveau Paris de l'Ouest, qui est un symbole de modernité. Avec quelque chose d'un petit peu froid aussi, ce Paris du quartier de l'Europe, par exemple. Qu'est-ce qui l'intéresse dans ces opérations de promotion immobilière? Parce que quand même, c'est de ça
oui,
un peu
fait,
qu'il s'agit.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'il va s'intéresser plutôt à ces quartiers-là que, je ne sais pas, par exemple, à Belleville?
Belleville est en dehors de Paris. Les entrepôts de César Birotteau sont dans le Faubourg du Temple. Mais il n'en dit pas plus. Peu de personnages de la comédie humaine s'aventurent au-delà de, disons, de la Bastille. En revanche, pourquoi il s'intéresse, disons, à ce nouveau Paris dont le cœur, au fond, le centre, c'est la Chaussée d'Antin. Parce que c'est celui qui se construit, qui évolue sous ses propres yeux le plus vite.
Donc c'est la modernité, encore une fois,
oui,
qui l'intéresse.
Oui, 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 oui. Parce que la chaussée d'Antin, on en a parlé il y a deux minutes, mais autour de la chaussée d'Antin vont se développer une série de quartiers satellites. Le quartier Saint-Georges, le quartier Notre-Dame-de-Lorette, le quartier qui n'appelle pas comme ça, mais qui correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui la Nouvelle-Athènes, et plus à l'ouest, le quartier de l'Europe. C'est une couronne de petits quartiers autour de la chaussée d'Antin. Et ça, il le voit se construire sous ses propres yeux pendant les années de la monarchie de Juillet. Et ça le passionne. Il situe beaucoup de personnages, et en particulier un groupe de personnes. C'est pas un groupe, c'est une série d'individus. Une série de jeunes femmes qu'il appelle les Lorettes. Mmh. Les Lorettes, c'est des actrices.
À cause de Notre-Dame-de-Lorette,
oui,
l'église qui se trouve justement dans ce quartier-là.
L'église est construite et terminée dans les années 20, qui est assez belle d'ailleurs. Et à partir de ce nom de Notre-Dame-de-Lorette, on qualifie les jeunes personnes de mœurs, disons, un peu légères, qui gravitent autour de ce quartier, qui sont des actrices, des saltimbanques, des écuyères, des chanteuses. Et au fond, de tous les personnages balzaciens, c'est ceux-là, celles-là, qu'il aime le mieux. Parce que ce sont des êtres, il le dit, bienveillantes. Mmh. Pas du tout comme les marquises ou les duchesses du Faubourg Saint-Germain, qui sont soit des évaporées, brutales et coquettes, soit des gourdes.
Alors, est-ce qu'on peut définir et faire une cartographie des fonctions un peu narratives des quartiers pour Balzac? Est-ce que de situer une action dans tel ou tel quartier de Paris, ça signifie pour lui déjà exprimer quelque chose de ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il y a une fonction narrative,
oui,
pour chaque quartier?
Oui, c'est tout à fait clair. Il explique, par exemple, en parlant du quartier de l'Europe, c'est un quartier qui a du mal à ce moment-là, parce qu'il y a une crise. Et il est commencé, mais il traîne à se construire. Donc, on peut dire qu'on vit dans les poutres et les moellons dans le quartier de l'Europe à ce moment-là. Et pour une femme, disons, une Lorette, habiter là-bas, c'est très mauvais. C'est un signe que les affaires ne vont pas bien. Et plus vite elle va être rapatriée du côté de la rue Taitbout, par exemple, plus vite elle va trouver quelqu'un qui va lui la loger dans ses quartiers plus élégants, et mieux ça vaudra pour elle. Donc il y avait véritablement une caractérisation des personnages par leur quartier.
Et le vieux Paris, alors celui qui est donc à l'intérieur des boulevards, il se caractérise par quoi? Parce qu'il parle beaucoup du Palais Royal, par exemple, qui est un endroit quand même assez miséreux, enfin où se côtoient à la fois la grande richesse et puis la grande misère. Qu'est-ce que ça signifie pour lui, ce vieux Paris?
Alors, les vrais quartiers balzaciens de l'ancien Paris sur la rive droite, c'est le Palais Royal et le Marais. Il y a autre chose, hein, il y a les Halles, il y a plein d'autres choses. Mais le Palais Royal, c'est le jeu, hein, les tripots, et les dames qui font commerce de leur charme, et les grands restaurants.
D'ailleurs, avec la fermeture des tripots, le Palais Royal perd l'essentiel de ses charmes,
oui.
Et Balzac, finalement, va s'en désintéresser.
À partir de 1836, la date est très précise, les jeux de hasard sont interdits dans Paris. Le Palais Royal s'écroule à ce moment-là, et le centre se déplace de quelques centaines de mètres vers le nord, vers les boulevards, vers Tortoni. Le perron de Tortoni devient une succursale de la Bourse, alors que le café de foie au Palais Royal était un des centres du monde. Le perron de Tortoni devient un des centres du monde.
Balzac, comme tous les romantiques, et comme beaucoup de Français aujourd'hui encore, estime que Paris est le centre du monde. Et que, donc, si on veut changer la réalité, il faut s'attaquer à Paris. Bon. Alors, c'est le centre du monde, c'est donc le lieu de l'action. C'est la scène
de
l'action, c'est la scène par excellence, Paris. Il n'y a aucun doute à cet égard. Alors, ceci dit, Paris est un enfer. Au début de La fille aux yeux d'or, il y a cette grande description dantesque avec une référence tout à fait explicite. Donc Paris est décrit comme un ensemble de cercles concentriques où on s'enfonce de plus en plus. Alors chez Balzac, donc, en tant que Français, bon, Paris est le centre du monde et c'est là à cette ville qu'il faut s'attaquer pour changer le reste. On est obligé d'aller ailleurs pour comprendre ce qu'il y a sous les apparences, hein, pour visiter toutes les coulisses de cette scène. Parce que c'est une scène ou c'est un ensemble de scènes avec des quantités de décors. Il faut passer de l'autre côté des décors. Il faut aller dans les dessous, dans les cintres, etc. pour comprendre comment ça marche en réalité et non en illusion.
La compagnie des auteurs sur France Culture et cet extrait d'une archive de Michel Butor qui évoque Paris comme un théâtre, c'est tout à fait ça, Éric Hazan. Une scène de théâtre.
Je sais pas. C'est pas la première idée qui me viendrait, une scène de théâtre. Parce que c'est vrai, une scène de théâtre, c'est quelque chose qui est très très bien limité dans l'espace, et même au fond dans le temps, alors que le Paris de la Comédie humaine ne connaît pas de ce genre de limites. On voit pas du tout où serait le rideau. Non, c'est pas une image qui m'emballe tellement. C'est vrai que dans l'extrait, il est question du grand prologue très sombre qui ouvre la fille aux yeux d'or, mais c'est exceptionnel chez Balzac. Mmh. Exceptionnel que Paris soit décrit dans les couleurs grises. C'est d'ailleurs curieux qu'il ait utilisé ces couleurs grises pour La fille aux yeux d'or, dédiée à Delacroix. Et le roman lui-même est vraiment plein de rouge, d'or et de blanc. C'est pas du tout un roman gris, au contraire.
Mais ce qui peut aller dans le sens de Michel Butor, c'est qu'il n'est pas question de faire du journalisme pour Balzac. Il n'est pas question de faire une œuvre documentaire, même si un certain nombre de personnes ont considéré qu'il valait mieux, plutôt que de regarder les statistiques et de sortir les archives du 19e siècle concernant Paris, qu'il valait mieux lire Balzac pour comprendre cette ville. Vous, à la fois, vous êtes d'accord avec ça et en même temps, vous nous expliquez que on n'est pas dans une œuvre réaliste avec Balzac. Donc, on est dans autre chose. Peut-être pas le théâtre, mais on n'est pas dans ni le journalisme ni la sociologie.
C'est sûr. C'est sûr qu'il ne fait pas une étude sociologique de la population parisienne. D'ailleurs, il y a tout un pan énorme de la population parisienne dont il ne parle pas du tout. Enfin, pas du tout. C'est, disons, l'Est parisien, les ouvriers. Enfin, il n'y a pas encore énormément d'usines du temps de Balzac, mais il y a énormément d'ateliers.
Ça n'intéresse pas, c'est pas son monde ?
Je crois qu'il le connaît assez bien, ce monde, mais... comme il le dit, il faut trier. Mmh. Hein? Il construit une cathédrale, il le dit dans ses termes. Il construit une cathédrale, alors on choisit les pierres. Certaines pierres conviennent, d'autres ne conviennent pas. Donc il laisse tomber l'Est parisien. Il y a un bref roman ou une longue nouvelle qui s'appelle Fascino Cannes, qui se passe au-delà de la Bastille. Ça commence, d'ailleurs, il suit deux ouvriers sur le boulevard Bourdon. Mmh. Il les écoute, il les entend. Mais c'est très rare, c'est le seul exemple.
Mais alors cet écrivain, qui est donc l'écrivain de la modernité, hein, on vient de le voir, qui montre comment cet Ouest parisien est transformé sous la pression des promoteurs, il ne s'intéresse pas, on l'a dit, ni au chemin de fer, à l'embarcadère de Strasbourg, qui va devenir la gare de l'Est, ni non plus aux fortifications.
Pas un mot. De même, quand il parle de la place de l'Europe... Il ne dit pas un mot de la gare Saint-Lazare, qui est en plein milieu de la place de l'Europe, mmh. et qui est quand même, à ce moment-là, une énorme nouveauté.
Oui. Alors, pour quelle raison, d'après vous ?
Pareil, c'est pas son sujet, ça va l'embarquer trop loin. Oui. Il se concentre, il choisit ses matériaux, et ça fait pas partie de ses matériaux, donc il n'en parle pas. Il le connaît très bien, puisqu'il prend le train, quand il est au jardin, il prend le train tous les jours.
Oui. C'est pas qu'il y a une volonté de s'intéresser plutôt à un Paris qui serait un Paris moderne par rapport au Paris ancien. C'est uniquement que, pour lui, il y a des choses qui rentrent dans le cadre de ce qui l'intéresse et le reste, on laisse tomber. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a, comme chez Baudelaire, une ambiguïté avec la transformation de Paris chez Balzac et une nostalgie aussi pour un certain Paris disparu.
Il a écrit un beau texte qui s'appelle « Ce qui disparaît de Paris aujourd'hui ». C'est pas dans la Comédie humaine, c'est paru dans un livre, un des ouvrages collectifs qui s'appelle « Le diable à Paris ». Et Il s'intéresse beaucoup à ce qui est démoli, plus qu'aux nouveautés techniques. Les nouveautés techniques, même le gaz. Le gaz, il, c'est pas un fanat du gaz. Mmh. Il est, au fond.
On a vu qu'il avait une grande cheminée dans sa maison de la rue Basse au début de cette émission.
Le gaz, oui, bien sûr, mais disons, il n'en fait pas. Il n'en fait pas une affaire. Je veux dire, c'est pas un glorificateur du gaz. Et même d'ailleurs, il reste beaucoup de réverbères, c'est-à-dire de lampes à huile, dans la comédie humaine, énormément.
Un des spectacles où se rencontre le plus d'épouvantement est certes l'aspect général de la population parisienne. Peuple horrible à voir, hâve, jaune, tanné. Paris n'est-il pas un vaste champ incessamment remué par une tempête d'intérêt sous laquelle tourbillonne une moisson d'hommes que la mort fauche plus souvent qu'ailleurs et qui renaissent toujours aussi serrés, dont les visages contournés, tordus, rendent par tous les pores l'esprit, les désirs, les poisons dont sont engrossés leurs cerveaux, non pas des visages mais bien des masques, masques de faiblesse, masques de force, masques de misère, masques de joie, masques d'hypocrisie, tous exténués, tous empreints des signes ineffaçables d'une haletante avidité. Que veulent-ils ? À force de s'intéresser à tout, le Parisien finit par ne s'intéresser à rien. Aucun sentiment ne dominant sur sa face usée par le frottement, elle devient grise comme le plâtre des maisons qui a reçu toute espèce de poussière et de fumée. En effet, indifférent la veille à ce dont il s'enivrera le lendemain, le Parisien vit en enfant, quel que soit son âge. Il murmure de tout, se console de tout, se moque de tout, oublie tout, veut tout, goûte à tout, prend tout avec passion, quitte tout avec insouciance. Ses rois, ses conquêtes, sa gloire, son idole, qu'elle soit de bronze ou de verre, comme il jette ses bas, ses chapeaux et sa fortune. À Paris, aucun sentiment ne résiste au jeu des choses, et leur courant oblige à une lutte qui détend les passions. L'amour y est un désir et la haine une velléité. Il n'y a là de vrais parents que le billet de 1000 francs, d'autres amis que le monde piété.
Un extrait de La fille aux yeux d'or, lu par François Chaumette, Éric Hazan. Alors Paris est pour Balzac une ville de plaisir, une ville de dégoût aussi, avec des Parisiens qui agiraient plus qu'ailleurs, par instinct, un peu comme des enfants. C'est une vision assez effrayante de la population parisienne.
C'est très exceptionnel dans la comédie humaine que Paris soit représenté, décrit, raconté d'une façon aussi sombre.
Oui.
Et je pense que dans l'ensemble, pour Balzac, quand il parle de Paris, il en parle comme d'une femme. Et je pourrais peut-être lire 10 lignes qui ouvre le livre, du reste. Pour moi, dit Balzac, Paris est une fille, une amie, une épouse, dont la physionomie me ravit toujours, parce qu'elle est pour moi toujours nouvelle. Je l'étudie à toute heure, et chaque fois j'y découvre des beautés neuves. Elle a des caprices, elle se voile sous une pluie, pleure, reparaît, brillante, illuminée par un rayon de soleil qui suspend des diamants à ses toits. Elle est majestueuse ici, coquette là, pauvre plus loin. Elle s'endort, elle se réveille, elle est tumultueuse ou tranquille. Ah, ma chère ville, comme elle est étincelante et fière par une soirée de fête, lumineuse, elle saute, elle tressaille. Mmh. Il parle de Paris comme une femme, comme d'une femme, c'est clair.
Donc avec qui il a eu des hauts et des bas.
Oui, c'est vrai. Il a été un peu fâché par moments, mais dans l'ensemble, quand même, il a pour cette ville une véritable passion.
Oui. Alors c'est un peu ce qui ressort de votre ouvrage, justement c'est la relation de Balzac avec Paris qui est absolument unique, unique à tel point qu'il considère que personne d'autre ne connaît cette ville comme lui la connaît, et vous reprenez cette citation absolument incroyable que je vais relire ici de Balzac. « Les boulevards sont à moi l'ombrage des Tuileries, les lilas du Luxembourg, à moi les jeunes colonnades du Palais-Royal. » Ah, personne ne connaîtra si bien que moi les heures délicieuses où Paris s'endort, où le dernier roulement d'un carrosse retentit, où les chants des compagnons cessent. Personne ne connaîtra mieux que moi.
Oui, ce futur est magnifique. D'autres auraient écrit « ne connaît mieux que moi ». Non, non, ne connaîtra. C'est-à-dire ça, non seulement je suis le plus grand connaisseur, mais pour toujours.
Et
au fond, il a eu raison. Pas si faux.
Oui, c'était vrai pour vous.
C'est, oui, oui.
Il y a aujourd'hui le Grand Paris qui est en train de se construire. On imagine que ça aurait été un sujet rêvé pour Balzac. On aurait voulu avoir un Balzac pour nous raconter cette histoire-là en train de se faire.
Est-ce que ça l'aurait beaucoup intéressé? Je ne sais pas. En tout cas, dans ce qu'on nous décrit comme étant le futur Grand Paris, c'est pas très balzacien.
Non, pourquoi?
Ce ne sont pas les détails qui comptent, ce sont des grands ensembles. Ce sont des visions technocratiques et globales. Bon, Balzac ne connaissait pas le mot ni technocratique, ni global du reste. Mais c'est bien tout ce qu'il détestait.
En tout cas, vous racontez un petit peu la suite de l'histoire dans une préface que vous avez donnée à l'ouvrage d'Alain Rustenholz, De la banlieue rouge au Grand Paris, publié en 2015 dans votre maison d'édition La Fabrique. Merci beaucoup Éric Hazan pour ce voyage dans le Paris de Balzac. Je rappelle votre livre Balzac, Paris. C'est aux éditions toujours de La Fabrique. Et puis je remercie également Yves Gagneux de nous avoir ouvert les portes de la maison Balzac du 47 rue Renoir en première partie de cette émission. N'hésitez pas à vous y rendre, l'entrée y est gratuite. À la prise de son aujourd'hui, Julien Dominque, à la réalisation Milena Elig. Et tout de suite sur France Culture, vous retrouvez Jacques Bonafé, la poésie.
Bonjour, bonjour la compagnie. Au deuxième jour avec Valérie Rouzeau, en sens averse. C'est le titre de son livre, Sens averse. C'est pour qu'il arrête de ne pas pleuvoir quand tout va pour le pire, je crois. On se souvient qu'on descend tous de l'Albatros. Celui de Baudelaire? Non, bien avant. At Landed Cross an Albatros. Celui de Samuel Coleridge dans La Ballade du vieux marin. What's in a bird? Un albatros mort sur une plage. What's in a bird? Nombreux. Pas une chanson volage, mais bouchon de bouteille, sans message de l'oiseau, coca, fanta, soda, du zéro sucre, sans joie, des pailles comme s'il y avait la mer à siroter, des morceaux de poupée Barbie, pas de musique, des perles de toute taille et couleur en plastoc, des cards subscriber identity module, des chewing-gums, des codes-barres, des branches de lunettes noires, des tubes de rouge à lèvres et des capotes anglaises, peut-être aussi un peu d'une tortue médusée, une tortue confondant sac plastique et méduse. What's in a bird échoué sur le sable mauvais du temps atroce qu'il fait, l'oiseau actualisé. Eh ben, voyez qu'on peut gueuler poétiquement. Autre protestation. Je suis en train de sanglier. C'est une citation de Jean-Pascal Dubost. Le cochon au fond des bois, le coucou qui l'a sonné pour en faire une tirelire ou de plates tranches de jambon. L'animal au fond des bois est peut-être un sanglier. Et le coucou, une Rolex, un timing d'époque vulgaire. La poule, elle, n'a plus de peau, Courbouillon n'a plus de plumes. La vache a fini de rire, son petit veau a bramé. Sur quelle patte encore compter? Quel ergot se dresser? Et zut, sur quel pied danser? Le petit chat est raide mort. Teinturé en rose bonbon par une gamine innocente ou shooté comme un ballon par des gosses bêtes et cruelles, le cochon émasculé grossit plus vite, alors donc nous ne rirons plus au bois, tous coucou et queue coupée. Et on se repose un peu avec radotage léger. La grenouille est toujours mon oiseau préféré. Et le monsieur qui siffle la cour en traversant. Je n'ai pas de bagages, je ne sais pas compter combien d'été encore jusqu'à mourir déjà. Combien d'hivers jusqu'à partir enfin. Le cœur ponctuel et désintéressé. Valoche sans état d'âme qu'une poignée retiendrait de terre, de main, de ce qu'il vous plaira. L'horloge, le vent souffle où ils veulent bien. S'il fera beau demain, personne ne pourrait dire. Sens averse à la table ronde. J'aime bien cela toutes les fois où Valérie nous amène dans le réel avec la poésie. Nous allons avec elle au supermarché, pourquoi pas. Nous saluons la caissière, nous repartons dans la rue. N'est-on piégé dans un panier de crabes, un peu comme jadis l'enfer nous cuisinait dans sa grosse marmite ronde de terre? Voici l'avant-printemps, saison d'Éden promis. Cette année, on a même du rab de février. Un jour de plus pour fruits et légumes bariolés. Mais tu as beau presser quelques oranges, tu n'y crois plus. Même les oignons petits grelots ratent tes larmes.
Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez des poèmes de Valérie Rousseau et Jean-Pascal Dubost.